Il y a les moments où on a des larmes dans la présence de Jésus et à ses pieds. C'est incroyable comment l'adoration, les thèmes, les chants, ça peuvent rejoindre le message. Et j'avais pas dit à Jacques avant de mon sujet. Mais voilà, il y a une semaine, j'étais chez moi et souvent je me sens un peu habité par des histoires de la Bible, je médite des histoires. Et je méditais une histoire, et tout d'un coup, c'est comme si Dieu m'a parlé. Et je ne sais pas, quand on dit Dieu m'a parlé, c'est une prétention énorme. Si on dit Dieu qui a créé tout l'univers, tout d'un coup il m'a parlé, Dieu m'a parlé. Et donc on doit faire un peu attention, parce que de dire que Dieu m'a parlé, waouh, être dans la présence de Dieu et il nous parle, oh! Et donc on peut banaliser ça. Mais c'est vrai que Dieu nous a parlé, il nous a déjà parlé par Jésus. Et Dieu, il est transcendant. C'est impossible de connaître Dieu dans sa grandeur. Mais il est devenu immanent. Ça veut dire tout près de nous, en choisissant de devenir un homme. C'est ça la beauté de la Trinité, que ce Dieu se révèle, il communique. Donc il nous communique par Jésus. Et Jésus a parlé. Il a parlé avec une voix humaine. Et maintenant, Dieu nous parle par l'Esprit de Jésus en nous. Et souvent, quand il nous parle, c'est vraiment, comme on dit, une kénose. C'est Dieu, il s'humilie lui-même pour nous parler d'un côté. Il utilise les paroles humaines. Il utilise les textes. Il se limite. Mais ça suffit. Ça suffit pour nous. C'est le plan de Dieu qui nous parle. Et souvent, il nous parle par le Saint-Esprit dans notre intuition. On entend Dieu, souvent on peut dire dans notre cœur. Entendre Dieu dans notre cœur. Et ça vient comme, pour moi en tout cas, ça, il n'y a pas une seule manière d'entendre Dieu. Ça dépend de notre propre personnalité. Je pense que Dieu, il sait comment communiquer. Chacun de nous, nous avons notre langage d'amour pour entendre Dieu. Et Dieu, il me parle souvent dans mon intuition. J'ai une intuition qui devient une parole. Et c'est souvent appuyé par des textes. Mais quelquefois, Dieu, il me parle vraiment en dehors d'un texte. Il me dit juste une phrase. Et l'autre jour, j'étais chez moi et paf, j'ai une phrase de Dieu qui est entrée dans mon cœur. Et ça, quand ça m'arrive, c'est beau, parce que ça me guérit, et je pense que ça peut guérir d'autres. Et donc ce matin, j'aimerais juste vous partager ce que Dieu m'a dit la semaine dernière, et j'ai gardé ça, j'ai dit « Ah, c'est bien, parce que je devais prêcher, j'ai dit « Ah, je vais garder ça pour partager avec mes frères et sœurs. » Et donc ce que Dieu m'a dit, il m'a dit « La restauration de la relation est beaucoup plus importante » que la condamnation du péché. C'est quelque chose comme ça. Et surtout pour Jésus, la restauration de la relation est beaucoup plus importante que la condamnation du péché. Ça, c'est notre Dieu. Dieu regarde, quand il nous regarde, il regarde le potentiel d'une relation restaurée. Il ne regarde pas « Ah, t'as fait ça. » Il désire la réconciliation, la guérison et la restauration. Et on voit ça surtout dans beaucoup d'histoires et beaucoup d'événements dans le Nouveau Testament, surtout. Tu vois ça dans le fils prodigue. Tu vois ce fils prodigue qui a tout gaspillé, qui a tout foiré, qui est couvert de saleté, qui est couvert d'haillons. Et la première chose que le Père fait en allant vers lui, c'est de l'embrasser et de lui donner un baiser. Et tu vois le désir de restauration de la relation, triomphe de la condamnation, de l'accusation. « Ah, t'as fait ça, t'as gaspillé mon argent, tu aurais dû. » C'est une sorte d'abondance d'amour et de restauration qui triomphe premièrement. Et donc, j'aimerais parler de ça aujourd'hui. J'aimerais utiliser un autre texte. Mais, tu vois, la condamnation est très subtile. Et la condamnation peut être historique. La condamnation peut être traditionnelle. Parce que quelquefois, nos traditions vont plus vers la condamnation que la relation. Et même pour moi, hein, je vois combien je peux m'éloigner de la personne de Jésus. Je peux être dans une tradition, je peux être dans mon église, je peux être dans même ce qui me guette souvent, ma théologie. La théologie, tac, 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 la réforme. Tac, tac, on a tout calculé. Hein. Et quelquefois, j'ai dit, mais Dieu, il est beaucoup plus grand que ma théologie et Jésus. Il est très choquant, Jésus. Attention, hein. Si tu veux vraiment être près de Jésus, hein, il dérange. Il dérange beaucoup la théologie. Et Dieu, il n'est pas juste une équation mathématique. Il n'est pas juste, voilà, tac, tac, tac. Il est une personne remplie de compassion. Et ça, ça va au-delà de la théologie. La personne de Jésus va au-delà de la théologie. Et donc, tu vois, on est souvent condamné. Il y a une condamnation qui est là. Et surtout quand on est un peu religieux, qu'on a un arrière-plan chrétien. Tu sais, c'était bien avant d'être chrétien. Tu sais, moi, je connais un monde. Quand j'étais jeune, je vivais dans un monde sans Dieu, sans loi, sans... Et donc, c'était vraiment... J'étais libre. C'était incroyable. Je pouvais faire ce que je voulais, finalement, sans condamnation. Bon, il y avait une petite voix de conscience de temps en temps, mais ce n'était pas très forte. Hein. Alors, j'étais vraiment libre. Et après, bon, j'ai rencontré Jésus, voilà, repentance, papa. Mais quelquefois, je pensais beaucoup plus difficile quelquefois de grandir dans le quand on est né entre les pages d'une Bible ou dans une tradition avec les premières communions et tout le reste. Hein, ce sont de bonnes choses, mais quelquefois, ce qui se dégage de ça souvent, c'est une condamnation sur nos vies parce qu'on n'est pas parfait, parce qu'on fait des erreurs et tout ça. Et on peut vivre avec cette ombre de condamnation sur nous. Et donc. Et surtout dans le domaine de notre sexualité. Tu vois, s'il y a un domaine où on est faible, où l'Église surtout est faible, on ne sait pas que faire avec la sexualité. Tu vois. Et donc finalement, on est tous des êtres qui ont une sexualité. Et donc là, l'Église, on n'en ose pas, on n'ose pas parler, on est tous comme des anges asexués. Mais finalement, c'est là où il y a quelquefois la plus grande condamnation sur nos vies. Et surtout, on ne condamne pas beaucoup de choses, mais ah, un petit écart sexuel, paf, t'es condamné. C'est vraiment paf, on met le double de condamnation sur le corps humain. Et si je parle de ça, je dirais, je vais donner une double couche, surtout sur la sexualité de la femme. Et on voit que beaucoup de religions... Ah, il faut pas montrer des cheveux, il faut être voilé, il faut juste être là parce qu'il y a la tentation. Et après, on peut accumuler une condamnation énorme. Et donc là, je vois, je dis, mais Seigneur, là, depuis peut-être la chute de l'homme, tout le monde, qui peut dire qu'il a, de toute sa vie, qu'il a une sexualité parfaite? On a tous nos hauts et nos bas. Tu vois, moi, je ne peux pas dire ça, mais bon, c'est... Mais c'est... D'un côté, l'Église n'est pas libre dans ce domaine. Et de restaurer notre relation avec Jésus. Tu vois, on ne sait pas... Comment est-ce que Jésus gère la sexualité? Alors là, peut-être... Oh, je ne veux pas vous choquer parce qu'on ne parle pas de ça dans l'Église souvent. Mais là, je dis la restauration de la relation, la restauration de notre vie physique, la restauration de tout, pas la condamnation. Tu sais, on a beaucoup de solitude aussi, beaucoup de solitude. Et comment est-ce que je peux être guéri de mes solitudes? Et on est souvent condamné dans nos solitudes. Mais nos solitudes sont aussi une opportunité de relation. Et donc, je vais vous raconter une histoire, là, et je vais le lire, premièrement. Comme ça, tu verras, c'est tellement une histoire tellement choquante. Choquante, tu vois. Mais c'est dans la Bible. Mais attention, hein, c'est hyper choquant. Hein. Et donc je vais le lire. Et après, il faut imaginer la scène. C'est tellement radical. C'est dans Luc 7, chapitre 7 et verset 36. 36 à 50. Et c'est un petit groupe de maisons, hein, groupe contact. Groupe contact. Et donc Luc, chapitre 7 et 36 à 49 pour ceux qui veulent suivre. Un des pharisiens, ça veut dire un homme, un théologien, un homme qui était bien, un bon évangélique, croyait bien à la parole de Dieu, les Écritures. Un des pharisiens prie à Jésus de manger avec lui. C'est pas mal ça. Déjà, allez Jésus, je veux te connaître. Un des pharisiens prie à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se met à table. Et là, quand ils se mettent à table, ils s'allongent comme les romains. C'est pas juste. On s'allonge, c'est bien. Et il est confortable à table. Et voici qu'une femme pécheresse, c'est même dans ma traduction, femme pécheresse. C'est un peu une langue ancienne, là. Mais qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Une femme pécheresse, hein, c'est une femme. Tu vois, on insulte les femmes tellement facilement dans les cours de récré. Tu sais, bon, je ne vais pas utiliser le mot, mais ni soumise, ni... Hein? Et donc, tu vois, on dit seulement ces phrases contre la femme, ah, une femme pécheresse, une traînée, une... tu vois, tout ce que tu veux. Mais tu peux ajouter une liste comme ça, longue. Bon, on n'a pas le même nombre de mots pour des hommes, hein. C'est quand même assez intéressant. Mais cette condamnation qui est sur la femme, dès son émergence, dès le moment qu'elle devient belle, paf, condamnation. Que ce soit une condamnation religieuse ou une condamnation de la société. Et voici tout de suite une femme qui a passé à côté de la plaque d'un côté. Une femme qui est à la recherche d'un bonheur s'égaré. Voici une femme pécheresse qui était dans la ville. Et cette femme sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tient derrière, à ses pieds, près de toi, Seigneur. Elle pleurait. Et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Vous imaginez ça? De mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Et puis, elle les essuyait avec ses cheveux. Vous imaginez? Donc, cheveux. Elle caresse les pieds de Jésus avec ses larmes. Vous imaginez, prendre du temps pour méditer un peu ce qui se passe là. Et les embrasser. Ça veut dire ses lèvres, chair contre chair. Jésus. Et embrasser, je dirais, les pieds de Dieu. Les pieds de Dieu. Et donner un bisou. Et là, elle faisait ça. C'est cataphilio le mot en grec. Non, c'était pas juste un petit bise. Pied de Jésus. Oh, c'est dans la Bible. C'est ce qui se passe ici. Et après, elle répandait sur eux du parfum. Et ça, c'était le parfum, c'était l'huile d'olive. C'était le myrrhe un peu parfumé. Donc bien sûr, ces choses, c'était déjà une tradition à l'époque, d'accueillir quelqu'un, de faire ça. Mais pas pour une femme de faire ça. Donc elle est là à ses pieds avec le parfum. Donc, il faut imaginer. Moi, j'essaye d'imaginer si j'étais assis, et comme Jésus, je suis un jeune homme de 32 ans, et tout d'un coup, une femme vient avec tout ce parfum. Elle arrive et elle se met à genoux. Il commence à pleurer sur mes pieds, allez, je ne sais pas ce que Sylviane penserait, mais Mais, et après, il essuie avec ses cheveux, il y a cette odeur de parfum, tu vois, comme Paco Rabanne, tu vois, c'est... Ouh, tu vois. Mais je pense que Jésus, il est vraiment à l'aise dans cette situation. Il faut juste penser à ça. Jésus est vraiment à l'aise, je dirais, avec cette situation assez sensuelle. Mais il est à l'aise. Et là où l'Église n'est pas à l'aise, l'Église n'est vraiment pas à l'aise dans une situation aussi sensuelle. Mais Jésus est à l'aise et ça fait partie de sa perfection. Ça fait partie de son amour. D'être à l'aise avec, je dirais même, la sexualité de cette femme. Et moi, je ne vais pas appuyer trop parce que je vais aller au-delà de ce qui est normal. Mais juste de dire, il est à l'aise. Il n'y a pas le moindre moment où il veut se lever pour la condamner. Il est à l'aise avec ses réactions émotionnelles. Il est à l'aise avec ça. Mais il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout à l'aise avec ça. Et verset 39. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même, « Fais attention quand tu parles secrètement à toi-même en ton cœur, parce que Jésus entend tout. » Tu vois, quelquefois je pense à ça. Quand je parle à quelqu'un te parler, j'y pense. Mais Jésus entend là. Il faut faire très attention avec Jésus. Et il dit, oh, si cet homme était prophète, il saurait que la femme qui le touche est ce qu'elle est. Et après, il jette facilement son mot qui définit toute sa vie. Comme ça, il veut la réduire, une pécheresse, une traînée, un bon à rien. Mais tu vois combien c'est dégueulasse, hein? Combien tu mets la vie de quelqu'un avec ses souffrances. Tu sais, une femme seule à cette époque, peut-être elle était veuve, peut-être elle avait été abandonnée, mais tu sais, il n'y avait pas la sécurité sociale. C'est comme en Afrique, hein. Moi, je vois un tas de jeunes filles enceintes, peut-être par viol, à 15 ans, 16 ans, 17 ans. Qu'est-ce que c'est l'avenir? On va t'accueillir, on va... Débrouille-toi. Donc, on accumule des tristesses, des blessures, et après, on est traité. J'ai vu une histoire hier à la télé, c'était la vie de plusieurs personnes âgées de 17 ans, en Russie, à Londres, en Australie, et au Ghana. Une jeune fille, 17 ans, elle avait déjà un bébé, ses parents étaient morts, elle était accueillie par quelqu'un, ils devaient vendre des petites chips dans la rue, toute la journée sous le soleil pour gagner un dollar. Je disais, mais c'est pas juste. J'étais révolté. Elle disait, les gens, quand ils me voient passer dans la rue, ils disent, voici la traînée. Bon, elle disait un mot plus dur, mais voici la traînée qui est là, parce qu'elle avait un bébé, qu'elle n'était pas mariée. Mais je pleurais. Je dis, mais c'est pas... Mais après, elle dit quelque chose, elle dit, oh, mais Dieu m'aime. Wow. J'ai dit, mais quelquefois, nous sommes étonnés, hein. Nous sommes étonnés à l'avenir. Mais lui, il a défini. C'est comme les gens voyaient cette jeune fille au Ghana. Voilà, c'est une traînée. C'est trop facile de juger quelqu'un. Beaucoup trop facile. Et l'Église le fait. Les pharisiens le font tout le temps. Tout le temps, sans savoir les souffrances, sans savoir la difficulté, sans rien savoir sur une vie, sans rien lever le petit doigt. On juge. Une parole bon marchand, une pécheresse. Et nous, on le fait. C'est notre théologie le fait. T'es pécheur. D'un côté, c'est une bonne théologie, mais si c'est éloigné de la personne de Jésus, c'est absolument offensif. Absolument offensif. Une théologie sans être incarnée dans la personne de Jésus, c'est offensif. C'est un abus sur les personnes. C'est un abus quelquefois sur la richesse de la personne faite à l'image de Dieu. Et donc voilà. Il dit, voilà, s'il était un vrai homme de Dieu, il saurait que cette femme, c'est une pécheresse. Et après, Jésus prit la parole. Oh, attention, Simon. Quand Jésus commence à prendre la parole, c'est du vrai, quoi. Et donc Jésus prend la parole, et quelle belle histoire il dit. Il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et peut-être Dieu dit, mais Église, j'ai quelque chose à te dire en 2019. Église, j'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répond-il. Et s'il savait ce qu'il allait venir. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Et comme ils n'avaient pas de quoi payer, qui peut payer leur dette de péché? Qui peut payer la dette d'une conscience? Qui peut payer la dette de l'humanité? On dit simplement, souvent à la messe, à la Sainte Cène, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais est-ce qu'on le dit par habitude? Ou est-ce qu'on voit là le prix vraiment? Ôter le péché du monde. Ôter le péché du monde et ôter mon péché. Le péché de mon monde. Ce n'est pas juste ôter le péché du monde d'une manière anonyme, mais il ôte le péché qui est dans mon monde. Et mon monde est quelquefois immonde. Mais il ôte l'immondité de mon monde. Et ils n'avaient pas de quoi payer. Tu ne peux pas payer la dette du péché, de l'erreur, les blessures de conscience. Qu'est-ce que tu vas faire? Une pensée positive, la psychologie, bon, ça peut aider un peu, mais comment est-ce qu'on peut vraiment effacer ça? Devenir innocent. Devenir innocent. Et ils n'avaient pas de quoi payer. Et après, il leur fait grâce, la beauté de la grâce. Il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Voilà. Ça, c'est bien qu'on compare quelquefois. « Waouh, lui, il a fait ça, et moi, j'ai vécu un tout petit peu. » Tous les deux, allez, on est grassés. C'est bien pour les arguments. Hein. Souvent, il faut être deux pour avoir une dispute. Et souvent, l'autre a beaucoup plus tort que nous. On est toujours la partie innocente, mais personne n'est innocente. « Oh, mais j'ai que deux drachmes, d'accord, mais t'as deux drachmes. Lui, il a mille, d'accord, il a mille. » Mais même pour tes deux drachmes, Jésus a dû aller mourir sur la croix. Il t'a gracié. Père, pardonne-le, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette action de pardon qui émane de la croix pour les grands péchés, pour des péchés capitaux, des péchés pénals, et des tout petits péchés. Mais péché est péché, finalement. Bien sûr, des conséquences sur nos vies dans cet espace-temps vont être plus grandes. Mais quand même, cette purification de notre conscience, cette purification est faite une fois par Jésus. Il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Et après, Jésus pose la question, lequel l'aimerait le plus? Et à votre avis? Et Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. » Donc là, plus ta somme est grosse, plus il y a un potentiel de relation et d'amour. Plus la somme est grosse, plus il y a un potentiel de relation. Quelquefois, j'ai presque envie de pécher pour être restauré. Il y a un côté positif dans le péché, de dire, mais waouh, cette grâce qui abondante dans ma vie, ça va me renouveler. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps, de dire, voilà, Seigneur, je suis condamné, je ne suis pas bon, j'ai fait ça, j'ai fait ceci. Après, Dieu te restaure, c'est magnifique. Et tu as une joie de connaître ce pardon de Dieu dans ta vie. Et après, il dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme? Et après, c'est encore un moment très dur pour Simon, peut-être un moment dur pour nos structures religieuses. Parce qu'il dit, je suis entré dans ta maison. Voilà, peut-être les gens entrent dans la maison de Dieu. Jésus, il dit, voilà, dimanche matin arrive, je veux entrer. Oh, c'est la réunion biblique, il entre dans notre maison. Ou il entre physiquement dans notre maison. Et quand il entre, est-ce qu'il entre comme comme un habitué, voilà, on s'est habitué de toi, Jésus, prends la place, voilà, tout en allongé. Allez. Mais il dit, mais je suis entré dans ta maison, Simon. Et tu ne m'as pas donné d'eau. Oh, quelle opportunité ratée. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes. Et elle les a essuyés avec ses cheveux. Alors là, peut-être juste trois choses. Hein, je ne vais pas prolonger trop longtemps. Mais est-ce que vous donnez vos larmes à Jésus? Est-ce qu'il trouve de l'eau chez toi? Quelquefois, c'est un peu comme Didier disait, hein, c'est, j'ai pas planifié, hein, les larmes qui sont là. Est-ce que vous donnez vos larmes à Jésus? Je vais vous dire, si vous devez pleurer, le meilleur endroit de pleurer, c'est aux pieds de Jésus. Il ne faut pas pleurer ailleurs, parce que ça va vous rendre amer. Si vous pleurez ailleurs, ça va vous rendre amer. Si vous devez pleurer pour des abus, des blessures, vos péchés, tout, on a des larmes, hein. Il y a un tas de raisons pour pleurer dans ce monde. Mais si vous devez pleurer, pleure aux pieds de Jésus. Si tu dois pleurer, pleure aux pieds de Jésus. Parce que tes larmes sur les pieds de Jésus te guérissent. J'imagine cette femme-là. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu. Certains disent que c'est peut-être Marie-Madeleine, ce n'est pas prouvé, mais bon, ça pourrait être. Mais c'est une femme anonyme, c'est toutes les femmes, c'est la beauté de toutes les femmes qui ont eu une vie compliquée, qui ont dû gérer des situations. Sans doute elle a été victime, sans doute, victime. Peut-être elle a eu sa part à jouer aussi, 500 deniers, ses nombreux péchés, d'accord. On aurait pu énumérer, Jésus il fait rien, il accueille ses larmes. Et cette femme était guérie aux pieds de Jésus. Et donc, verse tes larmes aux pieds de Jésus. Je ne sais pas, j'essaie d'imaginer, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et je dis, mais Jésus, est-ce que je peux te connaître comme ça aujourd'hui? Est-ce que c'est juste une belle histoire dans la Bible? Ou est-ce que, par le Saint-Esprit, est-ce qu'il y a un degré d'intimité qui m'est réservé, où je peux pleurer comme ça à tes pieds, dans le secret de ma vie, et de dire, voilà, je pleure à tes pieds, Jésus. Et c'est la repentance un peu, mais ce n'est pas une repentance condamnante, c'est une repentance qui guérit. Et de donner à Jésus tes larmes, même ce matin, moi je pleurais ce matin, comme Didier, mais je pleurais, ça me guérit. je ne pouvais pas dire que oh, j'avais beaucoup de péchés, je me détournais, non, mais je pleurais, parce que je sais que mon être a une grande dette. Mon être a une grande dette, je suis né avec une grande dette, et donc... Ce n'est pas les grands ou les petits péchés, mais je sais que dans la présence de cette pureté de Jésus, de cet accueil de Jésus, j'ai qu'à pleurer. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien, ça nous renouvelle. Mais bon, Simon, pas d'eau. Parce que la religion, tout le monde est bon, tout le monde est parfait, et on juge les autres. Tiens. Au lieu de dire, voilà, je vais pleurer moi-même, je vais donner quelques larmes aux pieds de Jésus. Et après, moi je ne peux pas imaginer comment elle a essuyé avec ses cheveux. Mais c'est juste pour dire que moi je préfère la théologie de Jésus ici, que la théologie de Paul, quand il dit que les femmes doivent porter un chapeau, tu vois, que l'Église a toujours eu peur des cheveux des femmes. Et c'est dans l'islam aujourd'hui, il faut avoir le voile, il ne faut pas avoir, il faut déféminiser. Tiens, juste... Voilà, bonjour. Non, cache ses cheveux. Ça va me tenter. Mais Jésus n'était pas, il n'avait pas un regard de convoitise sur cette femme avec tout ce parfum, avec toute cette volupté de ses cheveux. Mais c'est comme s'il accueillait la beauté de la femme. Il accueillait, parce que lui, il était parfait, il n'y avait pas la convoitise. Il faut ôter toute notion de convoitise dans ce bel jeune homme de 32 ans. Il a juste accueilli la beauté de cette femme. Et moi, je dirais qu'on a beaucoup de leçons à prendre de ça. C'est à cause de notre faiblesse, de notre religion, de notre petitesse qu'on veut enfermer la femme. Et la misogynie est toujours un signe de la faiblesse et le péché de l'homme. terrible. Et donc, moi j'aime bien ce que Jésus fait ici, parce que ça libère la beauté de la femme. Et ça restaure sa beauté, comme Ève était la mère de tous les vivants. Donc pleure sur les pieds de Jésus. Ça c'est le point. Donne-lui ses larmes. Donne-lui tes larmes. Et après, verset 45, tu ne m'as pas donné de baiser. J'ai dit, mais quel, il a passé à côté de la plaque là. Il a vraiment loupé une opportunité de donner un baiser à Jésus, donner un baiser à Dieu. Si Judas a trahi Jésus avec un baiser, quelle horreur. Mais là, bienvenue Jésus, il n'a pas fait ça. Donc Jésus s'est assis sans baiser. Combien de fois Jésus doit s'asseoir dans nos églises sans baiser? Parce qu'il n'y a qu'une religion, il n'y a pas une relation. Il n'y a que des formes de religion, il y a des sacrements. Bon, moi je ne suis pas contre les sacrements, mais il n'y a pas de baiser. Il y a de la tradition, il y a l'habitude, mais il n'y a pas de baiser, il n'y a pas de contact. Je ne vais pas donner un baiser à la Bible, mais bon, on peut baiser la bague du pape, pourvu qu'on ne laisse pas trop de bactéries, mais il faut... Voilà, comment? Est-ce que je peux donner un baiser à Jésus? Est-ce que je peux donner un baiser à Jésus? Moi, je me pose la question, comment est-ce que je peux donner un baiser à Jésus? Je t'aime, Jésus. Et surtout, ses pieds sont là. Ah, ça. Je veux vous donner envie pour votre prochain petit moment de culte personnel avec Jésus. Le matin ou le soir, c'est pas un petit moment de. Et de pleurer, d'être guéri, et après d'avoir le baiser, c'est la relation personnelle avec Jésus. Le baiser, c'est le contact. J'ai une relation personnelle avec toi. C'est pas juste la théorie. Tu m'aimes. Je t'aime, Jésus. Et là, il dit, et il s'arrête pas. Là, il était vraiment. C'était kataphilio, le mot grec dans ce passage. C'est faisait encore et encore et encore et encore. C'était avec enthousiasme. Mais Simon, tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, n'a pas cessé de me baiser les pieds. Et donc un baiser, c'est la relation personnelle. Et 46, tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Ça, c'était encore une tradition, donner un peu de parfum à l'invité. Tu ne m'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Et est-ce qu'on a du parfum pour Jésus? Bien sûr, on était arrosé par le parfum de la louange, de l'adoration ce matin. Mais le parfum, c'est notre ministère pour les autres. Ça sent bon. Quand tu as l'eau, les larmes, le baiser, il y a le parfum. Et ta vie est imprégnée de parfum pour toi-même, pour ta famille. Ça sent bon. Ça sent bon à la maison. Ça sent bon ton cœur. Ça sent bon. Parce que tu as répandu ton parfum sur les pieds de Jésus. Et après, ce parfum va être le parfum de vie répandu pour le salut de l'humanité dans le monde. Et donc, peut-être ce matin, on peut juste dire, Jésus, quand tu entres dans ma maison, est-ce qu'il y a des larmes? Est-ce qu'il y a des bisous? Et est-ce qu'il y a du parfum? Et après, il dit, c'est pourquoi, je te le dis, ces nombreux péchés, Paulus à Martien, sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Et il y a une sorte de parallélisme dans le texte, Paulus agapé. Donc il dit, Paulus à Martien, ça veut dire beaucoup de péchés, ou Paulus agapé, beaucoup d'amour. Et comme je dis, la restauration de la relation, Paulus agapé, est beaucoup plus importante que la condamnation du péché, Paulus à Martien. Mais maintenant, malheureusement, l'Église, il faut inverser son regard pour qu'on ait le regard de Jésus. Parce que nous, on fait Paulus à Martien, beaucoup de péchés, au lieu de beaucoup d'agapé et de grâce. Et après, Il dit, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et peu, c'est oli. C'est comme oligarchie, hein, le peu de personnes qui dirigent. Et donc, c'est un peu une lutte entre poli et oli. Est-ce que tu es poli? Oui, bien beaucoup. Ou est-ce que tu es oli? Et je pense que Dieu, il est dans l'abondance. Il gère l'abondance, mais il n'aime pas la petitesse, l'étroitesse. C'est l'étroitesse, un peu d'amour, un tout petit peu de péché. Je n'ai pas tué. Je suis meilleur que. Je suis pas pire que les autres. Si, tu es beaucoup pire. Oh, je suis pas pire que les autres. Si, allez, abandonne-toi, on a tous une grande dette. Et aime beaucoup. Aime beaucoup. Aime beaucoup. Et après, il dit à la femme, et je termine avec ça, j'ai été plus que 20 minutes, hein, pardon. Hein. Difficile. Hein. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Et je veux te dire ce matin. Je dis à toutes les femmes ici, comme Jésus, mais je dis à tous les hommes aussi, à moi-même surtout. Tes péchés sont pardonnés. Ah, oh, merci Seigneur. Pas juste pour aujourd'hui, mais tes blessures sont guéries. Les blessures de sexualité, où tu ne pouvais pas montrer tes cheveux, où on t'a appelé, la traînée, et tout le reste, tu vois. C'est pardonné. Tes péchés, c'est Jésus qui parle, tes péchés sont pardonnés. Et ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés? Dieu dans la chair, c'est ça la réponse. Parce qu'un homme, il ne peut pas pardonner des péchés, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Oui, mais Dieu dans la chair, la beauté de Jésus, sauveur, la bonne nouvelle, Jésus-Christ qui nous sauve de nos péchés, il pardonne nos péchés. Et il pouvait pardonner parce qu'il était immolé depuis la fondation du monde. Mais cette intention de restauration s'est incarnée sur une croix il y a 2000 ans, hein, à l'époque romaine. Mais cette victoire de la croix émanée avant la croix et même après la croix pour nous aujourd'hui. Et on a la victoire représentée dans cette sainte scène que nous célébrons dimanche après dimanche. Tes péchés sont pardonnés. Qui est celui qui pardonne même les péchés? Dieu incarné. Mais il dit à la femme, dernière parole, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Va en paix. Ta foi, là je reviens à la réforme, ta foi t'a sauvé. Mais pas ta foi dans une théologie, mais ta foi dans une relation personnelle avec Jésus. Au pied duquel tu peux pleurer, tu peux embrasser et tu peux répandre le parfum. Ta foi t'a sauvé. Zozo, c'est plus que juste être sauvé. C'est guérir, restaurer toute la plénitude d'une relation. Et donc, ce matin, on va juste prier. Hein, tes péchés te sont pardonnés et ta foi t'a sauvé. Saisis pleinement le salut de Dieu. Pas juste la religion, mais le salut qui vient des larmes. Le salut qui vient d'embrasser Jésus dans une relation personnelle. Et le salut qui vient de ce parfum, ce ministère qui est sur nos vies. Et donc Seigneur, tu m'as beaucoup pardonné, Seigneur. Et chacun ici, nous avons une grande dette. Il n'y a pas des petites dettes, Seigneur. Il n'y a que des grosses dettes que tu as payées. L'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde sur la croix. Et Seigneur, reçois ce matin. Reçois mes larmes. Reçois, Seigneur, mes baisers. Et Seigneur, reçois mon parfum. Et Seigneur, merci car tu m'accueilles vraiment et tu me restaures. Tu ne me condamnes pas, Seigneur. Tu me restaures pleinement. Enseigne-moi à être à tes pieds, comme cette femme, Seigneur. Et Seigneur, merci pour la dignité que tu me donnes. Merci pour le pardon que tu me donnes. Et ta foi t'a sauvé. Au nom de Jésus. Amen.